Bonjour, j'ai Patrick.
Oui. Je crois que ce qui nous a été dépassé, c'est un futur possible qui est.
Toutes sortes de futurs, il y en a plein là.
Assez catastrophique quand même. Hein. Je voudrais juste amener un petit bémol parce que ça laisse un petit peu penser que on peut déterminer une relation plus univoque entre le gène et le caractère. Je crois que dans les cellules, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que ce qu'on sait, c'est viser un caractère enviable à implanter, mais que souvent, les gènes qui concourent à la réalisation de ce phénotype ont en fait un rôle beaucoup plus... beaucoup plus complexe, beaucoup plus focalisé sur une fonction qui n'a pas forcément à voir directement avec la réalisation du phénotype enviable. C'est le cas, par exemple, des gènes des cancers. On nous parle beaucoup des gènes des cancers. Ces gènes des cancers, en réalité, ils ont une fonction dans la cellule, et c'est un by-product, en quelque sorte, qui va faire que on va voir apparaître les cancers. Ça, c'est à mon avis, une première limitation à l'idée qu'on pourrait produire un humain, un petit homme vert, par exemple. Et l'autre, c'est l'influence de l'environnement. On sait décider on a une certaine faculté de décider des gènes qui seraient éventuellement des allèles plutôt, parce que ce ne sont pas les gènes en l'occurrence, des allèles qui seraient peut-être préférables à d'autres, mais c'est très fonction de l'environnement, et il y a des exemples en génétique des populations qui montrent que des gènes qui ont un effet délétère peuvent être bénéfique pour la population dans un environnement d'équilibre.
Ah, ça, on est complètement d'accord.
Voilà. Et donc, les gènes qui n'apparaissent pas nécessairement très positifs, qui peuvent même produire des maladies, l'anémie falciforme, par exemple, et l'étalacémie,
oui, ne
sont pas des maladies qui sont très enviables, mais qui permettent dans un environnement, alors on se trouve que c'est la malaria, on va peut-être éradiquer la malaria, mais dans les zones à malaria, il est plutôt bénéfique d'avoir un gène thalassémique que
thalassémique.
Thalassémique aussi.
Parce
que la limite est c'est la thalassémie.
Non,
les gens, les deux. Oui, mais pour moi, cette remarque, elle est valable pour l'agenda. C'est-à-dire qu'effectivement, à court et moyen terme, peut-être qu'on aura résolu, à moyen terme, les techniques pour modifier les gamètes, et donc l'être humain, si on le voulait. Mais effectivement, on pourra s'en servir que pour des maladies monogéniques, au départ. Mais sur le moyen et long terme, beaucoup est codé dans notre génome, donc je vois pas pourquoi on ne finirait pas par quand même le trouver. Alors après, le risque, c'est... pour des choses aussi complexes que l'intelligence, il faudrait sans doute du fail and trial, c'est-à-dire tester des choses. Et donc ça, c'est encore autre chose. C'est de la recherche complètement non éthique. De quelle mutation ou quel nouveau gène pourrait augmenter le QI, par exemple. Pour prendre cet exemple, il faudrait sans doute faire des expériences sur des êtres humains, donc une recherche tout à fait réprouvable.
Mais ceci étant, il y a quand même une remarque qu'on peut faire, c'est que tu l'as dit à un moment, le génome humain c'est 20 000 gènes, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on imaginait.
Là, par contre, je corrige, parce que c'est 20 000 gènes, mais par exemple, on a rajouté des micro-RNA,
oui.
Et récemment, plus de 50 000, voire plus, long non-coding RNA, et on en est que, finalement, tout ça, ça date de la découverte de la compréhension de notre génome, donc début des années 2000, les long non-coding, c'est assez récent, donc on n'a pas encore fini de comprendre exactement notre génome. Alors, il y a la moitié qui est que de la répétition, donc ça fait quand même 1,6 milliard de paires de bases, c'est que de la répétition, qui a peut-être quand même un rôle, disons, d'espaceur, des choses comme ça, mais le reste, on n'a pas encore compris, c'est sûrement, ok, il n'y a que 20 000 gènes,
non.
Mais c'est plus complexe que ça, hein, tout ce sujet.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr, dans les gènes, on peut compter. Mais je parle des gènes communs pour les protéines, on évalue environ à peu près à 20 000,
oui, oui.
Et les protéines, c'est beaucoup plus, en réalité, dans le corps. On évalue à entre 100 000 et 1 million de protéines différentes.
Par l'espace, oui.
Hein?
Par les effets de
la
société,
des choses comme ça,
voilà,
des modifications.
Oui, oui. Non, non, c'est complexe. Donc
c'est,
l'agenda,
c'est complexe, voilà.
Je suis d'accord, l'agenda des dernières diapos, là, l'agenda sombre, s'est remporté à d'autres générations. Ouais. Mais à la vitesse où,
non, non, c'est vrai,
où on accumule les connaissances, avec l'intelligence artificielle qui va sans doute accélérer la recherche,
Il y a danger.
On finira par quand même voir un certain nombre de déterminants de ces éléments, force, etc.
Puis surtout, dès l'instant où c'est possible, ce sera réalisé. Effectivement, il y aura un endroit de la planète.
Oui, c'est ça le danger. Il suffit que ce soit fait à un endroit. Parce que quand même, au niveau, par exemple, européen, si la construction européenne perdure comme ça, je pense qu'on peut parfaitement mettre des barrières qu'on ne dépasse pas. Mais... la Corée du Nord.
Voilà, c'est ça.
En Chine.
Voilà. Je laisse la parole.
Moi, c'est juste deux questions. Là. Est-ce que tout ce que tu nous as raconté, qui est quand même assez fabuleux, ça s'applique à des maladies comme. Je pensais à l'hématochromatose, tu as parlé du sang. Ça, c'est une première question. Et puis, alors, sans doute le plus compliqué, les maladies mentales. On sait qu'il y a on suppose quand même assez fortement qu'il y a une origine génétique dans des trucs comme certaines schizophrénies, etc.
Bien sûr.
Est-ce que c'est envisageable qu'on puisse agir aussi sur les maladies mentales avec les thérapies
même, dont tu as parlé ? Alors, même réponse. Hein. Il y a des maladies mentales qui sont monogéniques. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, celle-là, clairement, à partir du moment où on corrigerait. Alors, attention, faire la thérapie génique chez quelqu'un qui a une maladie mentale déjà établie, chez un adulte, a priori, ce ne sera pas possible parce
d'accord,
que
ouais.
Le cerveau est déjà construit, mal construit. Donc, c'est trop tard.
Ouais.
Donc, après, il faudra plutôt peut-être imaginer la thérapie cellulaire, choses comme ça. Et encore, ça va être quand même très laborieux de réparer un cerveau vraiment qui a été mal construit. Par contre, éviter, corriger les gènes, si on sait les gènes qui causent cette maladie, avant, dans le schéma, là, toute maladie monogénique, ce sera assez facile.
D'accord.
À partir du moment où, techniquement, on pourra faire la boucle que j'avais de la prise de sang jusqu'au bébé.
Est-ce qu'on pourrait repérer un risque
évident
de schizophrénie, par exemple ?
Non, mais il y a plein de... Alors, il y a plein de recherches dans tous ces domaines-là, hein, c'est-à-dire les facteurs génétiques de ces maladies-là. Par exemple, alors, donc pour la schizophrénie, il y a des schizophrénies clairement génétiques, d'autres, on ne sait pas trop.
Oui.
Peut-être que là-dessus, il y a aussi des choses qui sont purement environnementales, le mauvais hasard, etc.
Ou
la conjonction de deux gènes improbables, enfin des choses très compliquées. Hein. Mm. Pour l'hémochromatose, alors c'est intéressant parce que ça revient un peu sur la même remarque que la drépanocytose. Vraisemblablement, s'il y a autant de gènes, alors l'hémochromatose, c'est une maladie où on retient du fer. Ça peut paraître bénin, mais si on s'intoxique de fer, si on capte trop de fer au long de sa vie, on finit par s'intoxiquer avec le fer, il se dépose dans les tissus tels que le foie, le cœur, et ça peut finir à l'insuffisance hépatique ou l'insuffisance cardiaque, des rhumatismes, etc. Et ça peut tuer l'hémochromatose. Et c'est assez banal. Alors de nouveau, c'est partie de ces maladies banales, comme la drépanocytose en Afrique ou des thalassémies autour de la Méditerranée, etc., qui ont sans doute été drivées par une sélection de pression génétique, à un moment donné, où peut-être il y avait des petits parasites qui nous faisaient saigner dans l'intestin, et ceux qui captaient plus de fer survivaient mieux que ceux qui captaient pas moins. Mais du coup, aujourd'hui, alors qu'on mange beaucoup et qu'on a plus de petits parasites qui nous rongent l'intestin et qui nous font saigner, ça peut être délétère.
Ouais. Chez les bantous, l'hémochromatose des bantous.
Ah bah aussi, le caucasien de base aussi, hein,
oui.
Beaucoup. Hein,
mais la base, c'est connu.
Ouais, et donc, ça a été évoqué tout à l'heure, corriger tous les gènes responsables de pathologies évidentes aujourd'hui, peut-être qu'on appauvrirait aussi le génome humain par rapport à des situations un peu extrêmes qui ne sont pas révélées aujourd'hui.
Voilà, on diminue l'adaptabilité.
Ouais, mais enfin, d'un autre côté, on a plutôt envie quand même d'éradiquer la mucoviscidose, la drépanocytose et... L'élément chromatose.
Florian. Oui. Sur les perspectives que tu as envisagées à la fin sur l'eugénisme, etc. Alors c'est vrai qu'en philosophie, donc il y a un nom pour ça maintenant, enfin qui a été proposé il y a 17 ans ou 20 ans, c'était Jürgen Habermas qui a proposé d'appeler ça l'eugénisme libéral, dans la mesure où c'est plus la société qui déciderait quel est l'individu le meilleur, mais ça serait reporté sur les parents, qui du coup décideraient leurs enfants, qui voudraient le meilleur enfant possible. Et donc ça serait plus un eugénisme positif, c'est-à-dire on va dire, tiens, il faut qu'il soit, enfin pour l'instant, il faut qu'il soit... il faut qu'il soit, qu'il vive longtemps, qu'il soit brun aux yeux bleus, etc., ou qu'il soit blond aux yeux bleus, pour reprendre les critères connus historiquement. Donc, ce ne serait pas ces critères-là, mais ce serait plutôt, justement, il faut qu'il évite telle maladie, il faut qu'il soit pas sujet à telle possibilité, etc. Et ça, c'est ce que Jürgen Habermas appelait un eugénisme négatif. Alors pourquoi est-ce qu'il appelle ça un eugénisme
négatif ? Libéral ou négatif ? Je n'ai pas compris.
C'est d'une part, c'est un eugénisme libéral dans sa manière d'être fait, puisque c'est les parents qui le font et donc la société qui décide quel est le meilleur individu. Mmh. Mais d'autre part, c'est un eugénisme négatif dans la mesure où, au lieu de souhaiter, par exemple, qu'il soit blond aux yeux bleus, on va plutôt vouloir éviter quelque chose. On va vouloir éviter, par exemple, telle ou telle maladie. Pour lui, ça reste un eugénisme dans la mesure où on ne souhaite plus avoir un enfant, mais avoir l'enfant. C'est-à-dire une différence. C'est-à-dire que c'est plus simplement un enfant, mais l'enfant. Mais c'est juste des termes qu'il propose. Hein. C'est la description. Après, on peut être... Voilà. Donc, après, il propose... Enfin, donc, d'une part, il propose ces outils pour distinguer, effectivement, ce type d'enfant. Alors ça, il y a... un scientifique, enfin c'est Laurent Alexandre, là, le belge, qui propose ça, qui a écrit La mort de la mort, là, et qui propose effectivement de dépister les maladies à partir d'une sélection génétique pour pouvoir éviter certaines sélections.
C'est donc, celui qui faisait Doctissimo, Laurent Alexandre.
Oui, c'est celui qui faisait Doctissimo.
Qui faisait, il a vendu.
Il a vendu. Il a monté une start-up, Doctissimo. Et maintenant, il a monté une start-up qui s'appelle, j'oublie son nom, mais...
Il y a DNA Vision, sinon il n'y a pas trop de DNA Vision.
Alors voilà. Et du coup, bon, ces perspectives-là, effectivement, ce sont celles qu'on retrouve dans le transhumanisme, entre autres. Bon, le nom n'a pas été cité, parce qu'ils font souvent, ils évitent le nom, mais Calico, par exemple, l'objectif de Ray Kurzweil, là, qui travaille à Google, qui est le responsable de l'ingénierie de Google, et qui tient Calico, justement, en main, c'est effectivement la modification... humaine pour ce qu'ils appellent l'amélioration. Mmh. Et ça, justement, l'amélioration ou l'augmentation, c'est des termes variables. C'est-à-dire que selon la société dans laquelle on est ou la culture dans laquelle on est, ce qu'on appelle une augmentation ou une amélioration, ça, c'est sujet à débat. Et du coup, ça pose le problème que tu évoquais, c'est-à-dire l'adaptabilité de l'individu en pointant, par exemple, la diminution de tel ou tel facteur génétique ou telle maladie. On peut éventuellement diminuer l'adaptabilité. Donc cette histoire de... Parce que c'est souvent vendu, le transhumanisme ou ces techniques-là sont souvent vendues en l'idée de... On va améliorer ou on va augmenter l'être humain. Alors qu'en fait, ça, c'est faux. Enfin, c'est pas universellement vrai. C'est vrai, on va dire, c'est vrai dans la culture dans laquelle on est. On dit, tiens, c'est mieux de pas avoir ça. Mais peut-être que dans d'autres conditions, ça serait bien, en fait, de continuer à l'avoir. Donc ce terme d'amélioration ou d'augmentation... C'est vraiment un outil de propagande dans la vente de ces produits-là. Et c'est souvent, d'ailleurs, on présente souvent ces produits en disant ils vont éviter telle ou telle maladie. Alors, comme ça a été fait un petit peu là, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi l'eugénisme qui a été pointé. Ça, c'est une vieille rengaine, puisque dès la découverte de l'ADN, le séquençage de l'ADN, on avait déjà des promesses sur la possibilité d'éviter ou telle maladie. Donc ces promesses se refont à chaque fois qu'on a des nouvelles techniques de ce genre-là pour justement vendre ces techniques-là en disant mais grâce à ça on va pouvoir éviter telle ou telle maladie. Et donc ce sont des vieilles promesses qui sont anciennes, et c'est d'ailleurs la même chose, tu disais que c'est une modification récente, la possibilité de modifier l'être humain. Non, en fait c'est une modification ancienne, puisque par exemple aujourd'hui, si vous êtes ouvrier, vous avez une durée de vie qui est potentiellement de 8 ans de moins que si vous êtes cadre. Donc la possibilité effectivement de sélectionner et de modifier des êtres humains, en fait elle est ancienne. C'est la société qui l'a fait à travers son organisation sociale, à travers ce qu'elle exige de sa population. Et la seule nuance qu'il y a, c'est que maintenant on a la possibilité de modifier l'héritabilité. Ça est nouveau. C'est-à-dire que maintenant c'est plus précis, on peut faire une modification plus précise. Mais la sélection des êtres humains, l'anthropocène, etc., tout ça c'est une perspective ancienne. Et je finis là-dessus en disant que justement, le problème c'est pas que tout ce qui peut se faire se fera. Le problème c'est plutôt que tout ce qui se fait. tout ce que le capitalisme, en fait, tout ce que la tendance de la société a, veut mettre au point, le fera. Et ça, on le voit avec la science-fiction. Les récits de science-fiction qu'il y avait dans les années 20 qui nous promettaient des voitures volantes ou tout un tas de discours ne sont pas arrivés. Ce qui est arrivé, c'était ce qui était économiquement porteur, ce qui permettait économiquement de gagner de l'argent. Et donc, ce n'est pas tout ce qui est possible se fera. C'est plutôt tout ce qui va dans le sens de la perspective politique de la société, la tendance majeure actuellement, le gain d'argent, se fera. Et donc, c'est pas... parce que tout ce qui est possible se fera, ça sous-entend le bien comme le mal. Mais en fait, ce n'est pas du tout la tendance. Ben, la tendance, ce qui est fort, ce qui se fait, c'est pas... Bon, il suffit de regarder vraiment ce qu'on a prévu dans la science-fiction dans les années 20, dans les années 50, c'est pas ça qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est autre chose, et c'est ce qui était économiquement rentable. Et c'est ça qui se fera. Et du coup, c'est pas... le lugisme libéral, l'idée que c'est l'individu qui va choisir, elle est fausse aussi, parce que l'individu est influencé par une société, et il va demander, en gros, ce que la société exige d'elle, enfin, exige de ses individus. Ouais. J'ai fini.
Gilles. Vous aurez 45 minutes.
Non. Non. Florian, il est.
Non, Gilles. Il y a un sujet. Je rapporte beaucoup des questions techniques. C'est que le salaire assez simple, tout en étant très compliqué, on travaille sur les gènes. Il y a toute la notion aussi très récente de l'épigénétique. Comment tout ça, ça se marie et comment on s'y retrouve?
Non, l'épigénétique, c'est juste. Un grand mot pour dire l'utilisation qui est faite du génome. Et donc là, si on modifie le génome, l'ADN, on modifiera les conséquences, et notamment l'épigénétique. Après, il y a une polémique au niveau de l'épigénétique. Récemment, il y avait Edith Hurt qui est intervenue à Génopolis sur ce sujet, c'est la semaine dernière d'ailleurs. Il n'est pas clair chez l'être humain, chez la souris un petit peu, et chez le végétal, c'est bien documenté. Il y a des traits épigénétiques, donc qui ne sont pas sur l'ADN, mais ce qui est autour de l'ADN, qui sont transmis d'une génération à l'autre. Mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle, et chez l'être humain, pour le moment, on n'a pas vraiment la preuve de ça. Je pense que... peut-être qu'il y aura un petit peu de transmission épigénétique, mais en tout cas, bien moindre que l'ADN. Et donc, les enjeux, là, sont beaucoup plus grands au niveau de l'ADN que de l'épigénétique. Alors, après, ceci dit...
C'est quoi une transmission épigénétique?
Donc, l'épigénétique, c'est lorsque c'est une information... c'est ce qui est autour de l'ADN. C'est notamment... Qui n'est pas dans l'ADN.
Qui doit être transmis.
Alors... Il y a deux définitions de l'épigénétique.
Genre la fonction crée l'organe, un truc comme ça?
Non.
Non, alors, non. Par exemple...
Moi, je faisais une clarification parce que j'ai pas...
Il y a deux aspects qui se tiennent. Un aspect, c'est l'épigénétique, c'est ce qui va organiser l'ADN et notamment son expression, c'est-à-dire les endroits du génome qui vont être transcrits en ARN et donc codés en protéines. Encore une fois, ce n'est pas tous les endroits du génome qui sont transcrits et codés en protéines en même temps. Les protéines qui sont codées dans la peau, ce n'est pas les mêmes que celles qui sont codées dans le foie. Donc, c'est l'épigénome, c'est-à-dire tout ce qui va être autour de l'ADN qui fait que le génome ne s'exprime pas de la même manière dans des tissus différents. Et normalement, au passage de relais entre deux générations, tout ce qui est épigénome est complètement effacé. À l'empreinte parentale près, mais je vais passer sur ce... Tout est effacé, ouais. Quand on fait les EPS, justement, on efface complètement l'épigénome. Et après, dans le végétal, il a été montré que certaines de ces modifications autour de l'ADN, qui normalement ne sont pas transmises d'une génération à l'autre, sont en fait quand même transmises. C'est-à-dire que l'ADN est transmis plus un peu ce qui est collé autour, mais c'est minime. Donc la transmission épigénétique est minime, et chez l'être humain, c'est pas encore démontré qu'elle existe.
Et puis, c'est vrai que ça a été... Cette transmission a été montrée, mais c'est instable, c'est-à-dire que ça peut réverser à tout moment. Et il y a loin entre de la transformation épigénétique à la transformation génétique elle-même.
Ouais.
Et la seule transformation stable est vraiment héritable,
c'est
la
transformation génétique. Ouais. On est d'accord.
Non, c'est après Dominique. Non. Moi d'abord. Je m'étais écrit. Alors moi, Marie-Hélène, Romy, et je ne me souviens plus. Pascaline.
C'est Evelyne.
Et Evelyne.
Elle est là-bas.
D'accord.
sur un domaine. Et
bon, je vous rappelle que à part Google, il y a aussi d'autres trucs qui apportent aussi. C'est un moteur de recherche qui s'engage à ne pas transmettre les informations comme Google, qui en profite largement. Alors, moi, je me pose aussi une question par rapport au hasard, au darwinisme. Le darwinisme a amené quelque chose de fantastique, c'est-à-dire c'est des milliards et des milliards d'espèces différentes. Si on se met à transformer, à utiliser tous ces trucs génétiques en disant « Ouais, super, on va faire des super organisme, on va oublier tout ce hasard qui nous a amené là aussi, qui est aussi une cause de merveille.
Mais ça, on le fait déjà en éradiquant un certain nombre d'espèces, y compris très belles, peut-être même très utiles. Voilà. Tout ça, c'est déjà. On uniformise déjà. Mais derrière cette remarque, il y a aussi, ça rejoint aussi d'autres remarques qu'on a faites. Le risque de l'uniformisation du monde. Si tout le monde fait les mêmes modifications dans le même sens, on sera à la fin tous blonds aux yeux bleus ou tous brillés. Enfin,
noir aussi.
Non, ou noir. D'accord.
Non, mais c'est ça. C'est
le sujet, mais pas la vie. C'est rien qui se fait l'idée.
Et il y aura aussi, même si on crée des organismes merveilleux, il y aura aussi des mutations.
Il restera toujours des mutations.
De toute façon, il restera toujours des mutations.
C'est-à-dire qu'on peut toujours, même si nous, on est parfait, transmettre une mutation à nos enfants, parce que dans la formation des gamètes, au vu du spermatozoïde, il y a une mutation qui s'est nichée, qui ne nous avait pas atteinte, mais qui atteindra les générations à venir.
Marie-Hélène.
Moi, j'avais une question. Je n'avais pas la notion qu'il y avait des maladies mentales ou nous
Si, je suis à peu près certain. Alors, c'est pas mon domaine. Alors, c'est un autisme, mais si tu me laisses ton mail, je peux te trouver ça.
D'accord. Et ensuite, tu remarques tout ce bon processus, ça nécessite de passer par des fibres.
Par des
fibres.
Fibres.
Tout à fait.
Donc, des fibres. D'accord. Et là, pour l'instant, on est quand même nettement moins bon qu'avec les fécondations de nature. Il va falloir faire des progrès assez beaucoup.
Nettement, je ne sais pas. On est moins bon, c'est sûr, nettement. Parce que ce n'est pas 100% hein, des fécondations naturelles qui aboutissent.
De mémoire, la FIF, c'est quand même 20%.
Oui, c'est ça. Oui, mais je pense qu'on est à 50% pour la.
Oui, mais ça implique chaque fois. C'est très lourd.
On est tout à fait d'accord.
Donc, je pense que ça ne va pas être si facile que ça.
Mais, non, je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple. Regardez les voitures autour de nous, c'est quand même très lourd à fabriquer. Hein. On aurait dit Moyen-Âge, un jour on fabriquera des voitures, c'est des composants qui viennent de Chine, des métaux rares qui viennent de là, etc. Et en fait, Et c'est pas ce que je veux dire, hein. C'est pas et confiance, c'est faisable, donc à partir de là.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que
vous n'êtes pas la seule.
Si je fais le constat, je ne trouve pas que l'humain soit particulièrement super. Je ne trouve pas que la Terre tourne très bien. Donc, là où le hasard a mis des milliards d'années à essayer de nous fondre, je pense que pourquoi, au nom de quelle idéalisation de l'humain et de la planète, on s'interdirait de. Au fond, de répondre à ce que tout être humain désire, c'est-à-dire la santé, le mieux-être, éviter la maladie, et au fond, la liberté aussi. Parce que moi, j'aime bien le hasard, ça ne me plaît pas tellement. Dieu, ça ne me plaît pas tellement. Donc, je me dis que si l'être humain, enfin, a la capacité, oui, de devenir son propre Dieu, d'imaginer une terre beaucoup plus. Où la maladie sera évincée, où peut-être des milliards d'individus vivront, parce que nous on parle, c'est facile de parler, on est bien là où ils sont, mais où des milliards d'humains auront peut-être justement la possibilité de vivre mieux, eh bien je ne vois pas pourquoi au nom de quoi, on n'espérait pas. Parce que s'il faut attendre encore des milliards d'années avec Darwin pour que l'être humain devienne à peu près potable, autant gagner du temps. Je vais vous donner
Mais dans les mains de qui ça va se mettre?
Voilà.
Dominique.
Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il est envisageable que le particulier aille dans une entreprise? Je pense que ce ne serait pas l'hôpital qui fera ça.
Une clinique.
Une clinique privée, effectivement. D'aller voir une clinique, d'aller dire je voudrais mon séquençage de génome, combien ça va me coûter. Donnez-moi le tableau que vous avez montré tout à l'heure avec les codages. Et puis qu'après, éventuellement, que ce soit fourni d'ailleurs à l'assurance qui va ne pas manquer de demander ça, pour faire un autre type de contrat ou de profession.
Alors ça, c'est... Aujourd'hui, clairement, en France, on n'a pas le droit de séquencer sauf si, son génome, sauf s'il y a une indication médicale. Mais dans d'autres pays, ils sont moins regardants. Alors par contre, 1, 2, 3, un demi... La société de la femme, de l'ex-femme d'un des fondateurs de Google, je ne sais plus lequel d'ailleurs, pendant longtemps, il faisait du séquençage, c'était prestation payante, il disait un certain nombre de risques, ils ont été interdits par la FDA, ça a été vraiment un drame pour eux, et là, récemment, ils ont de nouveau été autorisés, mais pour un nombre beaucoup plus limité de facteurs de risque. Mais donc, voilà. Aux États-Unis, c'est envisageable. Et je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, par contre, s'ils donnent la séquence du génome.
C'est concevable, en tout cas.
Oui, c'est concevable. Hein.
Et puis, ça tiendrait sur
aujourd'hui, c'est faisable. Hors loi, c'est faisable. Hein.
Mais ça va étudier des gens sur des choses qui ne pourront jamais, peut-être jamais déclarer.
Tout à fait, tout à fait. Si on vous explique que vous avez 10%, alors là, vraiment, j'ai aucune idée, mais si on vous explique que vous avez 10% de faire un cancer du pancréas, c'est-à-dire quand même plus que la population normale, sachant que le cancer du pancréas... pour le moment, on soit très mal. Vous avez alors que normalement, vous avez quand même 9 chances sur 10 de vivre bien. Sans ça, vous allez éventuellement l'intégrer. Non, c'est terrible.
C'est le débat sur le dépistage, ça, c'est autre chose. Oui.
Ouais. Et puis, on ne peut pas transmettre aux assurances. C'est interdit. Oui.
D'accord.
Je vais sortir un tout petit peu de sujet pour l'élargir. Je suis très intéressé par la collaboration entre les acquis des bactéries ou des levures et des hommes. Il y a 3000 ans, c'est grâce aux bactéries ou aux levures qu'on a le fromage, le vin, la bière, etc. Depuis le siècle dernier, l'étude des levures et des bactéries a permis de connaître le métabolisme intermédiaire. Et depuis une trentaine d'années, on utilise des enzymes qui sont le produit sélectif de milliards d'années d'évolution des bactéries, par exemple les enzymes de restriction, les polymérases et maintenant CRISPR. Maintenant, je vais complètement changer de sujet pour reprendre la parole. Je pense que si on fait un jour des hommes améliorés, ils seront considérés par l'ensemble de la communauté par des OGM et difficilement acceptés. Deux choses tout à fait différentes.
Désolé.
Ou alors, au contraire,
moi qui dis trop
uniquement réservé aux...
Moi qui suis trop intelligent pour éviter l'obstacle.
Ouais, ou alors, ce sera peut-être des opérations qui seront réservées qu'à une élite avec beaucoup d'argent.
Il y a plein de risques.
Mais
ce n'est pas ceux qui auront l'argent qui se font. Les gens crispés, ce sera des bébés. Enfin, c'est leurs parents qui auront
décidé
de prendre. Oui. Oui, moi je suis la rejoindre justement ce que vous avez dit, c'est plus, je ne suis pas une spécialiste du tout des questions, mais c'est plus économico-politique. Donc une remarque et une question qui est liée. La remarque c'est que, est sortie dans la presse cette semaine la fameuse étude sur l'évolution des inégalités mondiales, qui est super intéressante, et qui montre combien 1% de la population détient. Je ne suis pas une militante comme vous. Je suis moi je me dis tout bêtement, quand on est multimilliardaire, qu'on a tout, et qu'est-ce qu'on souhaite effectivement, même si ce n'est pas économiquement rentable, pouvoir éviter d'être malade et pouvoir faire des enfants qui vont vivre longtemps. Donc, c'est la question. Où en est-on aujourd'hui au niveau des labos de recherche, des capacités d'attraction des chercheurs qui sont liés au monde par rapport à ça? Il y a évidemment la Silicon Valley avec les GAFA, etc. Il y a la Chine aussi dont on ne parle pas, mais qui a des moyens qui sont gigantesques. Et qu'est-ce qu'en Europe, où on en est, Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que si on met des lois, alors là je rejoins une demande trop protectrice vis-à-vis de la recherche, et bien les talents partiront, on en parle beaucoup. Enfin voilà, c'était la question. Où en est-on?
C'est sûr, il y a un risque que les talents partent, il y a aussi un risque que ces découvertes se fassent autre part. Mais en même temps, il ne faut pas non plus niveler vers le bas. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'un pays moins regardant le fait qu'il faut suivre forcément. Mais en même temps, à l'inverse, la France a souvent été très frileuse. Par exemple, l'exemple typique, c'est la FIV. Elle a mis beaucoup de temps avant de faire la FIV. Aujourd'hui, elle le fait quand même. Etc. La recherche sur l'embryon humain, elle a été longtemps frileuse, donc c'est des découvertes qui ont été faites, qui ont abouti d'ailleurs à la reprogrammation dont je vous ai parlé en coup de vent aux États-Unis en 98, et la recherche sur l'embryon a été levée en 98, c'est les cellules souches embryonnaires aux États-Unis. La recherche sur l'embryon humain, ça a été levé en France en 2005, l'interdiction. Donc toujours ce retard. Donc, mais en même temps, je ne suis pas pour faire n'importe quoi et niveler vers le bas non plus. Donc, non, c'est... Moi, j'ai plus posé les questions que donné les réponses. Hein.
Oui, je voulais faire un petit commentaire. Le premier, par rapport à monsieur sur par la nature, oui, de toute façon, en recherche, on ne part que de choses qu'on a sous la main, qui sont des choses de la nature. Quand on fait de la chimie synthèse, on part d'ingrédients. Quand on fait de la chimie du pétrole, le pétrole, il a été fait pendant des millions d'années. Donc, on a que ça sous la main. Donc, c'est normal hein, qu'on utilise ce que la nature donne. Une fois qu'on a dit ça, par contre, on en fait des choses. Alors, ce que je voulais dire, je vais juste faire un petit taquiner un peu John sur l'histoire de la recherche fondamentale par rapport à la recherche appliquée. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu du problème avec la. Le procès qu'on essaie de créer entre les deux, et c'est souvent les fondamentalistes d'ailleurs qui insistent pour dire que c'est important la recherche fondamentale, et on comprend bien. Et moi je pense qu'il faut dépasser ça, parce que l'histoire là, de découverte récente, c'est quand même, ça vient quand même de la mission de Yaourt, qui était donc de la recherche appliquée. Et le plus intéressant, qui a parlé vers ce qu'on appelle le fondamental, le plus intéressant comme leçon, c'est dire que c'est la sérénité qui finalement. Règle tout, régit tout. Quand on fait une recherche fondamentale, on cherche quelque chose quand même. Et puis on va trouver de toute façon des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherchait. Et c'est ça qui est important. Après, fondamental, appliqué, je ne sais pas trop, je me méfie beaucoup de la distinction.
C'est-à-dire que la France, à un moment, ne finançait pas les travaux fondamentaux sur les bactéries. Et Emmanuel Charpentier raconte elle-même qu'elle s'est expatriée pour construire ce qu'elle
voulait. Oui, cette histoire.
Un mur entre les deux.
Oui, mais en même temps, c'est... Alors, on va peut-être pas parler de murs, mais en tout cas, il y a deux pôles quand même très appliqués. Moi, je fais plutôt une recherche plutôt appliquée hein, pour essayer de soigner des maladies. Mais en même temps, voilà, quand le gars a étudié des bactéries dans les flaques d'eau chaude au sud de l'Espagne, c'était pas immédiatement applicable comme le yaourt. Et en fait, ce qui est intéressant dans le CRISPR-Cas9, c'est qu'on voit qu'il y a eu un échange permanent entre les deux. Et donc, ces deux pôles sont absolument quand même nécessaires. Mais quand les financements vont trop vers les applications... Ça appauvrit la recherche du pôle fondamental, c'est ça.
Les gens essayent de bien mettre le mur pour bien, justement, pour ce qu'ils font. Mais en fait, au total.
Oui, mais c'est la finance qui va orienter la recherche. Hein.
Et en amont, c'est le politique.
Suivant la politique, tout à fait.
Les politiques ouais. De la recherche, on a vu être partout.
Pas de gros mots ici.
Floriste. Sur.
Oui, oui.
Sur ce qui était proposé tout à l'heure. Oui, je vais très vite. Sur l'avocat du diable, alors les promesses, toutes les promesses que tu faisais sur guérir toutes les maladies, etc. C'est très ancien. On le trouve dans Francis Bacon, donc dans des textes de 1685, je ne me souviens plus la date exacte. Dans la Nouvelle Atlantide, il fait une liste de tout ce qui pourrait être obtenu et souhaitable par la science. Et il dit guérir toutes les maladies. Mais en fait, c'est effectivement tout ce que. À chaque fois qu'on met en avant des avancées techniques, on met ses promesses en avant. Hein. Donc,
oui,
mais quand il y avait les nanotechnologies, on disait oui, on va rendre les aveugles pourront voir, les unijambistes pourront marcher. Et ça, c'est vraiment. Et ça, c'était. Les aveugles pourront voir, les unijambistes pourront marcher. Ça, c'est une citation que je fais littéralement du directeur de la recherche cognitive aux États-Unis. En 2001, pendant la NNI, la National Nanotechnology Initiative. Et aujourd'hui, on a les recherches. La recherche, c'est le Brain Project. Donc, c'est les recherches au niveau du cerveau. Effectivement, il y a pas mal d'argent qui est mis dans ces recherches-là.
Et c'est pour ça que moi je ne crois pas trop. C'est vrai que la perspective, on pourrait penser qu'on est protégé dans l'Europe avec ces perspectives de ces dérives qu'il pourrait avoir, qu'on pourrait dire, de ces technologies-là. Moi, je crois pas trop parce que justement, on est dans une logique de concurrence des marchés et que ce qui se fait ailleurs, toutes les entreprises courent pour dire, ben, ailleurs ils le font, donc moi aussi il faut que je le fasse. Et du coup, la protection que pourrait avoir l'Europe ou certains pays saute assez vite. Par exemple, en France, il y a Orange Healthcare qui fait la société Orange Healthcare. Il y a une vidéo dans laquelle son représentant discute avec des gens après une conférence qu'il a fait, dans laquelle il dit clairement qu'il va faire des recherches qui vont en fait dans le sens pas du transhumanisme, mais dans le sens par exemple de la récupération des données médicales des individus. Mais au lieu de leur demander directement de leur donner les données médicales, parce que ça en général les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur de ce qu'on peut en faire, on leur propose des applications médicales à qui ils vont donner leurs données pour que ces applications médicales les récupèrent. Et ensuite, via le biais d'une association qu'Orange Healthcare a créée, ils récupèrent ces informations. Donc, ils ne le donnent pas directement à la société, mais ils donnent à une association qui appartient à la société, qui récupère ces informations. Donc c'est vrai que... Et ils disaient que leur projet, c'est justement, ils appellent ça un écosystème économique dans lequel ils vont développer effectivement de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée, pour développer, pour mettre en branle ces perspectives-là. Donc ils sont dans le cadre effectivement d'une concurrence mondialisée, et je ne pense pas justement que l'Europe ou à ce niveau-là, il y aura des protections. Ça fait un peu, pour reprendre l'expression, c'est le jardin d'acclimatation. C'est-à-dire qu'au début, on dit non, et puis après, on dit oui, effectivement, sur l'ensemble des propositions. Sur la force du souhait de l'individu, et je finis sur ça, sur la force du souhait de l'individu par rapport à la réalisation pratique, j'avais dit que la tendance, c'était à ce qui était économiquement rentable. Mais effectivement, Kurzweil, par exemple, son souhait initial pour l'immortalité, c'est de ressusciter en quelque sorte son père, qu'il a perdu. Il dit, je vais créer une conscience artificielle, je vais créer avec l'intelligence artificielle une conscience artificielle pour refaire vivre mon père. Bon, ça c'est son souhait individuel, mais dans la pratique, ce qui va arriver pour la société, ça va pas être la conscience de son père, quoi. Ça va être les questions sur l'intelligence artificielle, sur le robot, la cybernétique, etc. Donc, même si les individus peuvent avoir effectivement des souhaits qui sont non capitalistes, parce qu'ils sont même malgré leurs moyens, et ben, après la traduction en termes d'application pour la société en général, elle devient rentable malgré c'est les souhaits qu'ils pourraient avoir qui pourraient être différents.
Pour l'Europe, si elle est trop libérale, évidemment, elle va laisser chaque pays faire ce qu'il veut. Et à ce moment-là, effectivement, ça va être plutôt une compétition, donc un nivellement vers le bas. Mais en même temps, l'Europe peut être un endroit... Je ne pense pas qu'un pays seul puisse tenir très longtemps en interdisant quelque chose, justement, sur ce problème de concurrence. Par contre, au niveau d'un continent comme l'Europe, c'est des possibilités. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la volonté politique. Et après, l'autre problème, c'est que même si, à la limite, l'Europe disait « Non, on continue sur... On interdit la création d'embryons modifiés génétiquement. Est-ce que la société le souhaiterait à partir du moment où justement naîtraient aux États-Unis ou en Chine des enfants indemnes d'un certain nombre de maladies génétiques? Donc c'est comme ce qui est arrivé pour la FIV. Au départ, la France a dit non. Et puis après, tout le monde a regardé pourquoi pas nous. Et là aussi, je ne pense pas que ce soit le capitalisme en tant que lui-même qui ait fait que la FIV s'est développée. C'est parce que c'est au départ un désir profond de l'être humain, s'il n'a pas d'enfant, d'avoir une solution à ses problèmes.
Ah oui, moi, ça oui.
Et donc, c'est le risque. Ce désir profond, je pense qu'il est là quand même.
Non, mais il faut que ce soit rentable. C'est comme guérir quand il y a des maladies. On sait que le Médecin du Monde avait fait sa publicité justement dernièrement pour critiquer le fait qu'il y avait des industries pharmaceutiques qui produisent des médicaments. C'est pas le souhait. Effectivement, on veut guérir des maladies, mais après, le coût que ça va, qui va pouvoir être guéri, comment ça reste dans une logique habituelle, même si effectivement on va vouloir guérir la maladie. Ça, c'est l'accès.
Moi, c'est autrement philosophique.
Après, on arrête.
C'est savoir est-ce qu'il est souhaitable. De quoi allons-nous mourir, en fait, si on guérit le vieillissement? Comment on va pouvoir tenir le fait que tout le monde se souhaite le paludisme? Je suppose que si on éradique le paludisme, on va être trop nombreux sur Terre. Comment allons-nous gérer ça? De quoi?
Non, mais ça. Ça règle pas.
Est-ce qu'il y a des
qu'il est souhaitable qu'on guérisse toutes les maladies, je veux dire, de...
Alors, c'est un autre sujet, c'est, nouveau, c'est le sujet du vieillissement. Est-ce que finalement, et de la vie éternelle, quoi, est-ce que c'est souhaitable?
Comment économiquement on va pouvoir gérer ça? Comment on va pouvoir être, je ne sais pas combien de minutes?
Ah, mais complètement.
Comment on va nourrir tout le monde?
Et même psychologiquement. Parce que si vous êtes éternel, vous n'aurez plus qu'une peur, c'est de mourir. Et donc, tout contact avec une autre personne est un risque infectieux. Toute sortie est un risque d'accident bête de la circulation. Et donc, le seul moyen d'être sûr de garder votre immortalité sera de rester dans votre salon.
Et le panoplisme en Afrique est un facteur de...
Asimov avait des
démographies. Oui. Et en fait, on ne peut pas compter sur le panoplisme comme sélection naturelle pour faire une révolution numérique régulière. Parce qu'au contraire, quand on traite la santé et qu'on éduque, les gens font moins d'enfants.
Bien sûr, c'est ça.
Voilà. Non, si, oui, il ne faut donc, pas souhaiter pas dire, que les gens meurent pour éviter ça. Sinon, il faut souhaiter une guerre atomique.
Vous pouvez comprendre.
Juste avant de se quitter.